Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les mercredis, c'est l'actualité des films qui sortent au cinéma dans le réveil culturel. Et un mercredi par mois, le premier du mois pour être précis. Et pour continuer la belle aventure cinéphilique de la saison dernière, on aura avec nous le précieux Michel Simon, qu'on ne présente plus, même si lui tient à ce qu'on cite le mensuel qu'il dirige, c'est-à-dire Positif. Et notre invitée ce matin est la réalisatrice Myriam Benbarek. Son premier film, Sophia, qui sort aujourd'hui au cinéma, a été remarquablement bien accueilli au dernier festival de Cannes dans le cadre d'Un certain regard.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Myriam Benbarek.
Bonjour.
C'est un mercredi avec Michel Simon, vous avez de la chance. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
À la fin de l'émission, vous nous livrerez, comme d'habitude, votre top and flop du mois au cinéma. Mais puisque dans le dernier numéro de Positif, vous consacrez deux pages à Sophia, le premier film de Myriam Benbarek que nous avons vu ensemble à Cannes et que nous avons aimé tous les deux, je vous laisse le soin de faire l'ouverture de cette émission.
Alors d'abord, il faut dire qu'il a eu le prix du scénario à Un certain regard, qui est très mérité parce que le scénario est au niveau de la mise en scène. Parfois, il y a un déséquilibre entre les deux, mais là, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que c'est un scénario très subtil et je dirais que certains regards, le regard de la cinéaste est un regard certain. C'est-à-dire qu'elle regarde la société marocaine. On aurait pu craindre, ça arrive souvent dans les pays en voie de développement, qu'on a une vision un petit peu manichéenne des choses, etc. Et c'est extrêmement complexe. Il s'agit d'une jeune fille qui attend un enfant, mais hors mariage, qui est évidemment interdit dans son pays. Et donc, il faut trouver le mari et qu'on puisse ensuite qu'elle soit donc reconnue comme la mère avec ce garçon. Et donc, c'est un film qui est pas du tout d'abord contre le machisme. On pourrait s'attendre à une dénonciation des mâles marocains, pas du tout. Ils sont critiqués, mais pas dénoncés. Et puis, on pourrait s'attendre aussi à du mélodrame, etc. Et c'est un regard, je trouve, assez distant, très subtil. Et moi, j'ai été très frappé. En particulier, il y a une scène où on voit les deux familles, la famille de la jeune fille, de Sophia, qui se retrouve reçue par la famille du père potentiel. Et je trouve que tous les rapports entre ces deux familles, qui sont chacune des deux côtés de la pièce, sont absolument remarquables de complexité.
Ça va ?
J'ai juste un peu mal au ventre.
Je crois que t'es enceinte.
Attends la carte.
Zerbna aussi n'a les papiers.
Attends la carte, Rajak.
Il n'est pas là. Il est en voyage. On ne peut pas trouver une solution. J'ai un problème.
Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement.
On n'a pas d'autre option.
C'est compliqué. On nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père.
Tu connais le nom du père, n'est-ce pas?
Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés.
Non, t'es oublié, je connais pas.
تي يقولوا بلي هاد التربيه ولدك
شفتها مره وحده راه ما قصاش
جايين باش تصيدونا
دابا في حالتي الا كان عمر هو اللي اغتصبك غادي يحكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس وفي الحاله الثانيه الا هو ما اغتصب غندير كل ما في جهدي باش يخفوا عليكم الحكم بجوج
سي فو بلي فوز علي فار كلك شوز
عندك من اشتغافي
فرصة لك باش تولي راجل شكون كتيب جويا شنو ندير وشنو ما نديرش هاد لا سيتياسيون اللي حنا فيها مناسبة لكل شيء
الحب ديال اول نظرة داك اللي كيكون غير في الافلام بالنسبة لي الحب كيجي مع الوقت
À Casablanca, Sophia, qui a 20 ans, vit encore chez ses parents. Et lors d'une réunion de famille qui ouvre le film, elle est prise de douleur au ventre. Sa cousine, médecin, constate très vite qu'elle est enceinte et constate surtout que Sophia fait un déni de grossesse. Alors, une fois que Sofia commence à perdre les os, c'est la panique. La cousine l'emmène à l'hôpital. Elle accouche discrètement avec la complicité d'un médecin, car il est en effet impossible de déclarer la naissance d'un enfant en l'absence du père. Et les rapports sexuels hors mariage sont interdits au Maroc. Donc voilà, Sofia est dans l'illégalité. Elle risque une peine de prison. Quand je résume ainsi votre film, Myriam Ben Barek, il a raison, Michel Simon, on pense que c'est une fois de plus un film de dénonciation, un film qui épouse la cause des femmes qui vivent dans des sociétés patriarcales, surtout quand il s'agit d'un pays arabe et musulman comme le Maroc. Mais toute la force de votre film, c'est que votre personnage, Sofia, refuse justement d'endosser le rôle de victime. Et très vite, on va se rendre compte que la victime n'est pas du tout celle que l'on croit, et que il y a d'autres violences pour faire changer les mentalités, les choses. D'après Sofia, c'est ce qu'elle décide de faire dans un scénario extrêmement bien écrit. Et on a l'impression que vous avez écrit ce film avec en tête surtout ne pas cocher les cases réservées aux films réalisés par des femmes arabes défendant la cause féminine.
Oui, en fait. Si vous voulez, j'avais envie de faire un film qui serait un peu comme je l'avais un peu pensé comme un portrait du Maroc contemporain. J'avais envie d'interroger les rapports de force et de pouvoir au sein de la société marocaine, et je savais étant donné que j'étais produite par la France notamment. Donc en fait, il fallait que je trouve un moyen d'attirer le spectateur et de trouver la forme qui allait le séduire, de trouver les clés qui allaient le séduire pour l'installer confortablement dans ses chaussons intellectuels, pour ensuite déconstruire en fait les idées préconçues. Donc en fait, c'était dès le départ, je savais que j'allais écrire le film comme ça. En fait, ce qui me manquait moi au départ, et pourquoi est-ce que j'ai écrit ce film, c'est que souvent dans la représentation des héroïnes du monde arabe dans le cinéma, elles sont présentées comme les victimes du patriarcat, du machisme, etc. Je ne rejette pas cette réalité. C'est vrai que le Maroc est une société patriarcale, mais j'avais envie de pousser la réflexion un peu plus loin, de proposer une réflexion un peu plus complexe et d'inscrire la réflexion féminine au sein d'un système plus global en interrogeant les institutions, les rapports de force dans la famille.
Et la famille,
etc.
Oui.
Voilà, tout à fait. Les rapports de force dans la famille et dans les institutions. Et donc, pour faire ça, parce que du coup, le cœur de mon film, en fait, le sujet de mon film, ce n'est pas la condition féminine, ce n'est pas la liberté sexuelle, sujet qui me semble un peu évident lorsqu'il est lié au monde arabe, c'est la fracture sociale. Et la fracture sociale, en fait, au Maroc, on est voilà l'un des pays, on est les plus forts en termes d'inégalité sociale dans le monde arabe. Je crois que c'est la base de la majorité des problèmes qu'on a dans la société marocaine. Et donc, du coup, j'avais envie, j'ai pas de réponse, mais j'avais envie de poser les questions. C'est un peu, le film y est construit comme un grand point d'interrogation. J'apporte pas de réponse, c'est un constat. Et du coup, voilà, j'avais envie d'ouvrir le débat là-dessus. Mais pour ce faire, j'étais obligée, effectivement, de ruser un peu.
Mais c'est incroyable ce que vous dites.
Mais je sais pas, il fallait trouver le moyen en fait. Donc je m'étais dit que la manière la plus pertinente était probablement de proposer quelque chose de séduisant et d'attendu les 15 premières minutes du film. Le pitch d'ailleurs que vous venez de... Enfin, la manière dont vous avez pitché le film, comme vous dites, ne reflète pas du tout le film. Mais en tout cas, c'est ce qui donne envie aux spectateurs d'aller voir le film.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est ce qui a permis le financement en France de ce film.
Je ne sais pas si ça l'a permis dans l'entièreté, mais il est vrai, je ne vous cache pas, que au début de la production du film, j'ai été confrontée à des retours de la part de certaines commissions qui me paraissaient un petit peu ethnocentrées, probablement parce que je ne répondais pas que le scénario ne répondait pas
à ce cahier de charge qui veut que Sofia
accepte son rôle de victime.
De victime, voilà, c'est ça. Voilà.
Exactement. Donc du coup, c'est très vite que j'ai rebondi après les premiers retours et les premiers refus de financement. C'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit ok, il faut que je trouve le moyen le plus malin et le plus pertinent de les attirer, de les séduire, de les installer confortablement dans leur siège pour petit à petit déconstruire tout ça et en arriver à une réalité, à une réflexion, une proposition en tout cas de réflexion plus complète et plus complexe, quoi.
Dans Sofia, donc, qui est votre premier film, c'est bon de le rappeler, et Michel Simon l'a tout de suite noté, Myriam Benbarak, cette confrontation entre deux classes sociales au Maroc, et ben ces deux classes sociales, c'est-à-dire, pour aller très vite, les bourgeois et les déshérités de ce pays, ils vont se retrouver quand même, le terrain d'entente, c'est quand même de préserver le système patriarcal.
Oui, et préserver le système patriarcal, oui, il y a de ça, mais surtout...
Et sauver la morale. La morale. Et là, pour le coup, la morale, elle est vraiment empreinte d'un conservatisme religieux.
Alors moi, je suis pas sûre. C'est marrant que vous y voyez ça. Ce que j'essaie de raconter dans Sofia, c'est aussi que... comment dire... cette réflexion de la condition féminine que je propose dans le film, elle s'inscrit dans un contexte économique, en fait. Et effectivement, ce face-à-face familial et cette séquence dont vous parlez, pour moi, en fait, c'est la séquence qui touche le cœur du film, où on perçoit que chaque famille, qui représente les trois catégories sociales, même si j'ai toujours du mal à dire que la famille de Sofia fait partie de la classe moyenne, puisque la classe moyenne est beaucoup plus proche de la bourgeoisie, elle est presque inexistante au Maroc. Il y a une fracture qui est béante, clairement, entre les classes populaires et la bourgeoisie. Et du coup, en fait, cette séquence-là, elle raconte de quelle manière est-ce que chacun pose ses pions. C'est comme un espèce de grand jeu de société, et comment, en fait, chacun veut préserver avant tout ses intérêts économiques plus que la morale, en fait, et que du coup, en fait, comment chacun essaye de exercer son pouvoir et sa force sur la classe en dessous pour se hisser au rang des plus forts et des plus privilégiés,
tout en se conformant à la législation. C'est pas un hasard si votre film Sofia commence par un article du code pénal. Mmh. Hein, qui rappelle que les Marocains n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage.
Alors oui.
Et que c'est puni par la loi.
Oui, alors l'existence de ce carton, je vous avoue que moi je m'en serais bien passée. J'avais pas spécialement envie de le mettre, j'avais pas spécialement envie d'ouvrir mon film là-dessus, puisque, comme je vous disais, le sujet du film et le cœur du film, c'est la fracture sociale et la liberté sexuelle. Mais en fait, c'était important de le mettre puisque le public occidental n'est souvent pas au courant de cet interdit-là. Et du coup, ça faussait un peu la lecture du film et on ne comprenait pas vraiment l'enjeu de Sofia au fur et à mesure de son parcours.
Mais ce film, quand vous l'avez réalisé, il devait s'adresser à tout le monde, ou vous imaginiez d'abord un film manifeste qui serait réalisé par vous et qui à destination d'abord du public marocain et arabe, ou...
Pour moi, c'est un film qui s'adresse à tout le monde. On a deux personnages principaux. On a Sofia, bon, c'est le personnage principal, qui pour moi représente le regard assez objectif de, voilà, elle a toutes les clés en main, en fait, pour comprendre comment fonctionne la société marocaine. Donc je pense que le public marocain s'identifie davantage à elle. Et après, on a le personnage de Léna, qui pour moi représente aussi le regard occidental porté sur le monde arabe et sur le Maroc notamment. Donc pour moi, le film s'adresse absolument à tout le monde. C'est vrai que le personnage de Léna, il existe aussi pour moi, en tout cas, je l'ai un peu pensé comme une réflexion sur ce regard occidental qui peut parfois être, sur la condition féminine, un peu teinté de naïveté ou d'une certaine commisération parfois sur, qu'est-ce qu'être une femme dans le monde arabe, c'est quoi être victime, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Non, mais tout à fait. Alors, c'est un film donc agréablement surpris les journalistes au Festival de Cannes, qui a eu un certain succès. Vous avez même obtenu le prix du scénario, Myriam Benbarak. Et vous êtes présentée comme une cinéaste franco-marocaine. Je dois vous avouer que cette appellation m'intrigue. Ça veut dire quoi, être franco-marocaine? Ça veut dire être née en France de parents marocains? Ça veut dire être marocaine et vous êtes arrivée en France? Eh ben, j'ai essayé de voir. C'est pas tout à fait ça. Vous êtes marocaine. Votre père était diplomate. Et c'est parce que votre père est diplomate que vous avez vécu en Europe très jeune et que vous avez grandi entre la France et la Belgique.
C'est ça, Et à l'âge adulte, je suis retournée au Maroc. Et aujourd'hui, je vis entre Casa et Paris. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est être franco-marocaine ? Honnêtement, j'en sais trop rien. Je crois que l'identité, c'est un truc assez mouvant, qui bouge constamment.
Autrement posé la question, pourquoi le film Sofia n'a pas été produit, par exemple, par le Maroc alors qu'il y a une vraie industrie cinématographique au Maroc ?
Oui, bien sûr. Après, c'est une question de rencontre aussi. Moi, j'ai rencontré mes producteurs ici à Paris. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus installée à Paris qu'au Maroc. Et j'avais envie de travailler avec ces personnes-là. Après, on a tenté de faire une coproduction avec le Maroc. C'était d'ailleurs très important pour moi de le faire. Mais malheureusement, pour des questions de planning, parce que je voulais absolument être prête pour Cannes, ça n'a pas pu se faire. Mais je pense qu'à l'avenir, sur les prochains films, ça se fera. D'ailleurs, le Centre cinématographique marocain a découvert le film à Cannes. Ils ont beaucoup aimé.
Le film est sorti au Maroc ?
Pas encore, non. Il va probablement sortir dans la foulée après le Festival de Marrakech entre novembre et décembre.
Ne fais pas ça, Sophia, on va trouver une solution. Il va reconnaître l'enfant. Je te le promets. Je ferai tout pour qu'il le reconnaisse.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Quel est votre parcours, Myriam Benbarak ? Comment êtes-vous arrivée au cinéma ?
Je sais pas, j'ai cherché pendant de très longues années ce que je voulais faire. Je crois que j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais, puis je gardais un peu les trucs dans mes tiroirs. Et puis voilà, un jour, j'ai décidé que c'était peut-être ça que je voulais faire après 12 000 petits boulots un peu partout. Et j'ai passé des concours pour entrer dans une école de cinéma. Et puis à l'âge de 26 ans, assez tardivement, je suis rentrée à l'INSAS à Bruxelles. Et c'est là que je me suis dit, ok, bon, bah, ça me convient pas mal, ça me correspond. J'ai toujours un peu du mal à m'exprimer et à répondre à cette question-là. En fait, je trouve que c'est toujours un peu difficile. Je crois que c'est une multitude de choses qui amènent vers le cinéma. Probablement, une envie, un besoin, une nécessité d'exprimer des choses, mais souvent, on n'est pas très à l'aise avec la parole. Donc, du coup, le média de l'image et du son, est plus approprié. Mais voilà, j'ai découvert en fait le cinéma assez tardivement au final.
Vous n'êtes pas la cinéphile type qui décide très jeune de devenir cinéaste un jour ?
Non, absolument pas. Absolument pas. Non. D'ailleurs, si j'avais pu me passionner pour autre chose, peut-être que ma vie aurait été plus simple.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que je pense que faire des films, c'est à la fois très beau, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et surtout quand on est une femme, il faut en avoir conscience. Donc, du coup, voilà, c'est des choses qui mettent beaucoup d'années à être installées. Et voilà, il faut faire preuve de. Voilà, il faut être tenace. Passionné, faut se laisser l'espace aussi pour rêver. Voilà.
Mais le succès de votre premier film, Sofia, j'espère qu'il vous donne envie de continuer à faire du cinéma.
Bien sûr, ça me donne envie surtout de raconter des histoires. Après, si je ne sens pas la nécessité de raconter quelque chose, franchement, je m'abstiendrai.
Michel Simon, nous avons affaire à une nouvelle génération de metteurs en scène pour qui le cinéma n'est pas la passion dévorante de toute une vie.
Oui, mais moi je suis très attaché au premier film parce que souvent
vous l'avez souvent dit,
les gens sont condescendants, c'est pas mal pour un premier film. Là, beaucoup de premiers films sont remarquables. Ce qui est dur, c'est de faire un très bon septième film. Mais en tout cas, ce premier film augure de beaucoup de belles choses. Voilà.
네, 회수 우방구님이 여기 계시네요. 축하드립니다.
그럼 어떡해? 이거 여자형 손목시계인데. 이제부터 구해야겠네. 이종수, 네, 나 모르겠어? 봐봐. 난 내가 먹고 싶을 때 항상 귤을 먹을 수 있어.
배고파.
Vous avez reconnu, c'est un extrait du film que vous allez défendre aujourd'hui, Michel Simon. Autre film vu à Cannes que vous avez aimé, Burning.
Oui, c'est la couverture du numéro de septembre de Positive. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Je pèse mes mots parce que je n'emploie pas tellement le mot dans l'année. Avec Le Poirier Sauvage, c'est les deux plus grands films de la compétition cannoise qui ont tous les deux été ignorés par un jury qui avait beaucoup de purée dans les yeux et incapable de reconnaître le grand cinéma, ce qui est une grande tristesse pour moi. Et donc, c'est un cinéaste coréen, Lee Jang-dong, qui n'en est pas à son premier film. Je crois que c'est son sixième ou septième. C'est à chaque fois des films étonnants, Oasis, Secret Sunshine, Poetry.
Raconte quoi, Burning ?
Alors, Burning, c'est... D'abord, c'est un film sur le mystère. C'est un film qui est constamment passionnant parce que on ne sait jamais exactement où l'on va. C'est un film poétique avec des mystères. Il y a des chats, mais on ne sait pas s'ils sont là ou s'ils existent vraiment. Il y a des granges qui brûlent. On ne sait pas si c'est un des personnages qui met le feu à ces granges.
On est à la frontière de la Corée du Nord.
C'est un triangle amoureux, c'est-à-dire un triangle. Enfin, le triangle est un peu déséquilibré quant à l'amour. C'est l'histoire d'abord de rapports entre deux hommes de classe sociale totalement différente. Un garçon très bourgeois, très avec une Porsche, vivant très bien, une sorte de playboy. Et puis, au contraire, un garçon très modeste qui veut devenir écrivain. Et puis, entre les deux, il y a une femme, évidemment. Alors, c'est une femme qui disparaît deux fois. Elle disparaît d'abord après avoir fait l'amour avec ce jeune garçon, ce jeune peut-être pas prolétaire, en tout cas ce jeune déshérité, et puis elle part comme ça en Afrique, donc elle disparaît, et quand elle revient, elle est avec ce riche playboy, et ensuite, au milieu du film, elle disparaît, comme dans l'Aventura d'Antonioni. C'est une femme disparaît, d'ailleurs il y a beaucoup de films, regardez Psychose, c'est une femme disparaît, Vertigo, les films d'Hitchcock, voilà, donc cette femme disparaît une deuxième fois, et le film se resserre sur ces deux hommes, donc qui sont de classe sociale opposée. C'est à la fois un thriller, parce qu'il y a vraiment un vrai suspense, c'est un film poétique. Il y a une scène, par exemple, sublime, où elle danse au crépuscule devant les deux hommes. C'est une scène vraiment d'une beauté, d'un érotisme incroyable. C'est un très, très grand film, vraiment, et je suis triste parce que beaucoup, la critique mondiale, voyait en lui la Palme d'Or, unanimement, c'était vraiment unanime, avec Le Poirier Sauvage, mais comme Le Poirier Sauvage de Nouri Bilge-Ceylan est un metteur en scène qui a déjà eu une Palme d'Or, donc tout le monde disait, enfin, c'est l'arrivée de Lee Jang-dong, et ce jury incompréhensible dans ses choix est passé à côté.
Ouais, enfin, pour donner la palme à un autre grand metteur en scène qui est Kore-eda.
C'est un très bon film, Kore-eda est un très bon metteur en scène, je ne dirais pas que c'est un très grand metteur en scène, comme Lee Jang-dong et comme Nouri Bilge-Ceylan. Il faut, je crois, beaucoup à la hiérarchie.
D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de cela, vous n'avez pas du tout aimé l'enthousiasme des critiques français, particulièrement autour du dernier film de Spike Lee.
Oui, alors là, c'est le grand prix du jury, c'est-à-dire tout de suite après la Palme d'Or. Quand on pense au film qu'a fait Spike Lee, quand on pense à Do the Right Thing, par exemple, qui n'a rien eu à Cannes il y a 30 ans, on rattrape Spike Lee à la dernière minute. C'est un peu comme Godard, qui n'était jamais à Cannes, quand il venait, il avait rien, et maintenant on lui donne une Palme d'Or spéciale à chaque film où il arrive. Je trouve que c'est très dommage, parce que, évidemment, je suis contre le Ku Klux Klan. Je pense que tous les
ça c'est le sujet donc du dernier film,
c'est-à-dire un noir s'infiltre dans le Ku Klux Klan pour effectivement faire un travail de sape, etc. Bon, s'il était Kubrick, ce qu'il n'a jamais été, mais il aurait fait Docteur Folamour, la farce à ce niveau de génie, c'est formidable. Sauf que c'est une farce, je trouve, assez laborieuse. Il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. C'est un film assez platement réalisé, avec des éléments qui effectivement drôles. Il y a des choses drôles, des choses moins drôles. C'est parfois un peu étiré, et je trouve que c'est complètement disproportionné.
Vous n'êtes pas un peu trop injuste, Michel Simon, parce qu'on voit bien que ce film de Spike Lee, il a été fait dans l'urgence de répondre à Donald Trump.
Mais bien sûr, je déteste Donald Trump, mais pour moi, le cinéma, je suis un homme engagé politiquement, je me suis toujours battu pour beaucoup de causes politiques, mais quand je parle de cinéma, je parle d'art cinématographique, c'est ça qui m'intéresse. Le film de Spike Lee ne serait pas du tout condamnable si s'il était comme ça sorti dans la semaine à Paris, on dirait oui, c'est sympathique, etc. Mais je trouve qu'il est indûment porté au nu, et c'est ça qui est un peu dommage. Et excusez-moi de profiter de cette tribune pour établir des hiérarchies, parce que moi, ce que je trouve triste, c'est que les mêmes qui trouvent sublime le film de Nuri Bilge Ceylan ou le film de Lee Jang-dong, ils trouvent également sublime le film de Spike Lee. On n'est pas dans la même catégorie. Voilà, donc on n'est pas dans la même catégorie.
Mais
donc,
vous les avez vus ces deux films, Myriam Belmarel ?
Alors à Cannes, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir deux films.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Hein.
Oui,
vous
bien
avez,
sûr.
Vous avez enchaîné des interviews tellement que votre film qui sort aujourd'hui, je rappelle, Sophia a beaucoup plu. Merci beaucoup Michel Simon, merci beaucoup d'être venu nous parler de Sophia, votre premier long métrage, Myriam Belmarel. Et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Bonne journée sur France Culture. Le réveil culturel ce matin a été réalisé par Christine Robert, préparé avec Corinne Amar et à la technique Sébastien Royer. À demain.